Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Depuis sa première fugue à l'âge de 15 ans dans le Kurdistan, Philippe Frey, passionné incorrigible, vit des expériences hors du commun, dans les contrées les plus désertiques et hostiles de la planète. À ses côtés, dans cette première émission, vous pourrez parcourir plus de 40 000 km à pied ou à dos de chameau. Donc Philippe, toi tu fais des choses assez incroyables. On va prendre le temps de découvrir ton parcours. Donc tu voyages, tu as traversé les déserts des 5 continents. Parle-moi de toi avant de commencer.
C'est vrai que les gens peuvent se demander pourquoi je vais dans le désert, qu'est-ce qui me pousse à aller dans le désert. Et j'ai réfléchi en fait pourquoi j'allais dans le désert, parce que moi j'y vais depuis très très jeune, mais j'ai jamais compris le moteur qui me poussait à y aller. Et en fait, je pense qu'il faut remonter très très jeune dans l'enfance. Donc j'essaie de me rappeler voilà, mes souvenirs les plus anciens. Et j'étais toujours un peu casse-cou, donc je faisais des patins roulettes, je me cassais le bras, je faisais du vélo, je me cassais l'autre bras. Ensuite, j'ai commencé à acheter des motos, je me cassais la gueule en moto, etc. etc. Donc en fait, c'est rien de vraiment exceptionnel, mais disons, c'était déjà un esprit d'en prendre plein la figure et puis que ça ne me gênait pas plus que ça. Je dirais même que je prenais presque plaisir à avoir de la douleur. Et ça m'a servi en fait pour plus tard justement quand j'ai abordé les déserts, parce que les déserts évidemment c'est des endroits difficiles, il fait chaud, il y a du vent de sable, il n'y a personne, donc il faut savoir surmonter tout ça et effectivement si on a vécu des trucs forts avant dans sa jeunesse, dans son adolescence, ça peut aider, mais sachant que chaque fois une dune à monter, ce sera une dune à monter, il fera chaud, le sable est brûlant, ça va être toujours difficile, donc en fait il faut vraiment s'acharner voilà, contre les éléments.
Alors le désert, donc tu es né en France, en Alsace. Ici le désert ça n'existe pas, t'as la forêt, t'as la montagne, t'as plein de biotopes différents, donc t'aurais peut-être pu devenir un aventurier qui traverse l'Amazonie, mais non, ça a été les déserts. Comment est-ce que tu l'expliques? Donc le côté aventurier, tu l'expliques dans ton enfance, hein, le côté un petit peu casse-cou que tu avais, mais pourquoi les déserts et pas les forêts amazoniennes ou d'autres biotopes?
Bah effectivement, en Alsace, on a les Vosges, donc c'est des montagnes qui sont très très froides en hiver. Et tous les week-ends, depuis l'âge de 12, 13, 14 ans, bah j'allais dans les Vosges pendant un jour, deux jours, trois jours, avec un copain qui s'appelait Henri, et on dormait dehors. Donc on dormait dehors, il faisait parfois moins 10 degrés, moins 12, moins 15 degrés. On marchait avec de la neige jusqu'aux genoux. On était des gamins, mais on faisait déjà ça, et on tournait déjà au rhum, rhum Negrita qu'on achetait dans les épiceries, et c'est vrai que je m'étais plutôt habitué au froid, et bon, le froid c'est douloureux, c'est mordant, c'est difficile aussi, hein. Mais je connaissais le froid, étant tout gamin. Et puis, en fait, mes désirs d'évasion, mes rêves d'évasion, c'était plutôt vers la mer. Donc, je dévorais les bouquins de Tabarly, de Moitessier, d'autres auteurs également. Et j'étais sûr que plus tard, j'allais m'acheter un bateau et que j'allais parcourir les mers du Sud, etc. J'ai fait tous mes degrés de monitorage. J'étais de moniteur de voile à 14, 15 ans, 16 ans. Et toujours dans l'optique de partir loin. J'ai même acheté un bateau, j'ai fait de la compétition avec mon frère, on avait un 470, enfin vraiment on était parti évasion, mer, voilà. Et puis j'ai découvert le désert à ce moment-là, et je me suis rendu compte que le désert c'était exactement comme la mer. Pourquoi? Parce que quand on quitte un puits, tout peut vous arriver jusqu'au moment où on arrive au puits suivant. Et en bateau c'est pareil, on quitte un port, la mer peut se déchaîner, on peut avoir un cyclone, jusqu'à ce qu'on arrive au port suivant. C'est exactement pareil, c'est la même technique d'orientation. C'est la même façon de naviguer dans les dunes, par exemple, entre une houle de mer et des montagnes de sable, c'est pareil. Et j'étais frappé, en fait, par cette similitude. Et je me suis dit que le désert, c'est peut-être même encore mieux, parce qu'on n'a pas besoin d'argent. Le bateau, il faut l'acheter. Et en plus, tout restait à faire, parce que les déserts, ce sont des taches blanches sur les cartes. Quand on regarde des cartes des déserts, que ce soit l'Est du Sahara, ou le désert d'Afghanistan, ou le désert d'Iran, ben, personne ne connaît ce qui s'y passe. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de cartographie. Et j'étais plus tenté, en fait, par une aventure terrestre qu'une aventure marine. Mais je sais qu'un jour, j'aurai un bateau. C'est-à-dire, il faudrait juste que je fasse un best-seller, et la première chose que j'achète, c'est un bateau.
Les premiers voyages étaient avec tes parents, et à partir de quel moment est-ce que toi tu as pris la route seul?
Alors ça a été très jeune, hein. Donc dès l'âge de 15 ans et demi à peu près, j'ai fait une fugue. Donc en fait j'ai décidé justement de partir plus loin que la Turquie, donc je suis parti seul. C'était dans cette maison d'ailleurs. Bon, j'ai laissé un mot sur la table de la cuisine et puis j'ai dit salut, je suis en Turquie. Et en fait justement l'année d'avant j'étais avec mes parents, mais je voulais voir plus loin. Et j'étais insatisfait, donc je savais qu'il m'interdirait de toute façon d'y aller. Et j'ai plus rien dit pendant un an. Donc j'ai gardé mon secret pendant un an. J'ai travaillé à l'usine au mois de juillet. Et puis j'ai mis un peu d'argent de côté. J'ai déchargé des camions et j'avais aucun favoritisme. Et puis cet argent, par contre, j'ai pas pu le retirer à la banque. J'avais le droit de travailler à l'usine, mais j'avais pas le droit de retirer mon argent à la banque puisque j'étais mineur. Et je suis parti sans argent. Donc j'ai débarqué en stop à Istanbul. J'ai téléphoné à mes parents, qui étaient catastrophés, bien sûr. Je leur ai dit, envoyez-moi l'argent que j'ai gagné. Ils m'ont dit, bon, bah, effectivement, si déjà il est parti, autant lui envoyer. Et cet argent n'est jamais arrivé. Donc j'étais en fait non seulement en Turquie, mais en Syrie, en Irak, sans argent, toujours en stop sur des camions. Parfois c'était difficile parce que bon, un gamin blond de 16 ans, j'avais les cheveux longs, les yeux bleus, on a plus de problèmes avec des hommes en Turquie qu'une femme pourrait en avoir. Et bon, bah, j'ai sauté un ou deux camions en route comme ça, je me rappelle ça clairement. Ouais. Mais ça a été une découverte vraiment énorme parce que j'ai découvert ce que c'était que la liberté déjà. Et puis que la vraie découverte d'un monde, de gens qui vivent différemment. Je me rappelle d'ailleurs quand j'étais au Kurdistan turc ou syrien, bah, je bondissais de bonheur sur des petites pistes de mules au fin fond du Kurdistan parce que j'étais heureux et j'étais bien. Et je suis rentré 3 mois plus tard complètement transformé.
Et donc là, tu t'es prouvé à toi-même aussi qu'on pouvait voyager sans argent, parce que l'argent que tu attendais à Istanbul n'est jamais arrivé, tu as quand même continué ton itinéraire, et c'est là où tu prends pleinement conscience de ton potentiel humain, de potentiel de vie, de te dire, bah ouais, peut-être qu'on s'en sort dans pas mal de situations.
Ben, je pense vraiment qu'on n'a pas besoin d'argent pour vivre. À Istanbul, bon, il faut s'imaginer, je dormais dehors, j'ai pas d'argent pour rien, donc je dormais sur les plages du Bosphore, ou parfois dans des gares routières. J'ai vendu, j'étais parti avec 3 fois rien, j'avais peut-être 3 paires de chaussettes de tennis, un jean et un petit sac pour tout mettre dedans. J'ai vendu le sac, j'ai vendu les chaussettes de tennis dans les bas-fonds d'Istanbul, j'ai gagné peut-être 10-20 euros. Mais ça m'a permis de tenir au moins 15 jours, 3 semaines comme ça. Je mangeais un œuf et une tomate par jour quand je pouvais acheter quelque chose. Et puis sinon, je volais des amandes ou des figues au bord des champs. Et c'était super. En fait, on peut vivre sans argent. Et après, dans les déserts, je l'ai découvert encore plus. Quand on a ces 2 chameaux, par exemple, et qu'on est seul au Sahara, on n'a besoin de rien. Avec 5 kilos de farine, 2 kilos de dattes, vous tenez pendant 2 mois, 3 mois, sans aucun problème. Il faut juste s'occuper des chameaux. C'est-à-dire que c'est un équilibre. Il y a un petit peu de végétation dans le désert. Un petit peu, mais il faut la trouver, il faut laisser pâturer ces chameaux qui sont quand même des animaux, ce ne sont pas des machines. Et grâce à cet équilibre comme ça très éphémère entre un petit peu d'herbe, des animaux semi-sauvages, bah, on peut traverser des surfaces immenses. Et puis l'alimentation, bah, on mange trois fois rien. Le corps peut se satisfaire de pratiquement rien en fait.
Et tout ça, tu l'as appris sur le... Comment est-ce que tu as appris cette... Parce que le désert, comme on disait, si on est en Alsace, tu n'es pas préparé. Traverser un désert avec un chameau, ce n'est pas quelque chose qui va et y a là, ce n'est pas facile. La préparation, est-ce qu'elle a eu lieu avant? Est-ce que c'est vraiment sur le terrain? C'est l'école de la vie qui t'a emmené à apprendre ces expériences?
Bah, la première expérience, c'était donc au Kurdistan, donc Turquie, Syrie, Irak. Et l'année d'après, j'ai découvert le Sahara, le vrai désert, le vrai Sahara avec des vrais nomades. Ça s'est fait un peu par hasard parce que j'étais d'abord allé au Maghreb et puis il y avait cette piste qui s'ouvrait vers le sud. Bon, j'ai commencé à la prendre et puis je ne pensais pas traverser le Sahara. J'ai descendu de plus en plus bas, Djelfa, Gardaïa, Taman Rasset. Et puis là, le Niger était en fait seulement 600-700 km plus bas et il y avait un camion de date qui partait. Voilà. Bon. Alors je montais sur le camion de date. Bon, ça coûtait rien du tout, quelques poignées d'euros. Et il y avait une trentaine d'Africains qui rejoignaient leur pays, donc le Niger. Et évidemment, le camion est tombé en panne. Donc en panne, en plein milieu du Sahara, entre l'Algérie et le Niger. Ça a duré quand même 2-3 semaines, le temps qu'on se fasse dépanner, parce qu'on était vraiment très à l'écart de la piste principale. Et c'était une découverte, cette fois-ci, du Sahara. Alors, comment ça se passe en plein été, parce qu'on était au mois de juillet, quand il y a 30 personnes qui sont en survie? Bah, on passe son temps à l'ombre du camion, sous le camion. Et en fonction du soleil qui se lève à l'est, qui se couche à l'ouest, bah, l'ombre du camion se déplace et les 30 personnes se déplacent en fonction de l'ombre. Et le seul moment où on peut s'éloigner de cette ombre, parce qu'il fait 50-52 degrés, c'est le soir. Alors effectivement, on peut s'éloigner, on peut faire 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres à l'écart du camion, trouver un peu d'intimité, un peu de solitude. C'est le seul moment de la journée où on peut. La nuit, on ne peut pas parce qu'on est capable de se perdre, hein, de ne pas retrouver l'endroit. Et puis, on voit parfois un fennec ou une gerboise qui profite de la même heure, du fait que le soleil n'est plus calcinant pour justement sortir de son trou. On fait ses petites découvertes, comme le petit prince d'ailleurs, hein, de Saint-Exupéry qui parle à son renard. C'est vraiment pareil. Hein. Et en fait, on s'est dit toujours, mais qu'est-ce qu'il y a derrière l'horizon? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces dunes qu'on voit au loin? On sait qu'on ne peut pas y aller, puisqu'on n'a pas l'eau pour y aller. Est-ce qu'on va pouvoir trouver le chemin pour revenir? Mais on est cerné à 360 degrés par ce Sahara qu'on ne connaît pas. Et donc, tout ce qu'on connaît de ce désert, c'est ce qu'on voit sur 360 degrés, tout autour de soi. Et tout le reste, on ne le connaît pas. Donc, on a envie de le connaître. On a envie de voir ce qu'il y a derrière. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais chez moi, c'était comme ça. Donc, j'avais que traversé le Sahara comme une araignée sur un fil, c'est tout. Une fois, au mois de juillet. Alors, il y en a certains qui trouveraient ça extraordinaire. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, certes, mais décevant, parce que j'avais envie de connaître tout le reste.
Donc là, tu étais motorisé, hein. Enfin, cette traversée s'est faite donc sur le camion de date qui est tombé en panne, où vous êtes resté à 30 à attendre des secours. Et après, d'ailleurs, comment ça s'est passé? Ça veut dire, c'est un peu comme des naufragés au milieu du désert où vous êtes là, au milieu de nulle part, à attendre qu'il se passe quelque chose.
Voilà, et puis un beau jour, il y a un autre camion qui s'est planté d'ailleurs dans le même trou qui avait causé la panne de notre camion. Bon, on l'a tous aidé à se désensabler, et puis il a accepté d'emmener tous les gens qui étaient en trop, parce que l'eau venait à manquer. Il fallait absolument que... Bon, il y avait deux gardiens qui restaient pour garder le camion. Il fallait réparer, ressouder le radiateur, donc tout le monde est parti sur l'autre camion. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert l'Afrique noire, parce que le camion, le lendemain ou le surlendemain, arrivait à Arlit, en plein... première petite ville d'Afrique. D'Afrique noire. Et c'est une ville qui, à l'époque, il faut se remettre dans l'ambiance, il n'y avait rien. Il y avait quelques nomades peuls qui avaient leur troupeau de zébus. Au mois de juillet, tout est calciné, il y a du vent de sable, des tornades tous les jours. Hein. C'est la période des tornades. Donc on voit le soleil qui s'obscurcit, qui devient violet. Et puis on compte jusqu'à 10 et on a un brouillard de poussière qui obscurcit toutes les ruelles de la bourgade. On ne voit plus rien, on ne voit plus à 2 mètres. Et ça, c'est tous les jours comme ça. On a quelques Touaregs qui viennent du désert, qui baraquent leur chameau blanc à l'entrée de la bourgade, qui vont acheter du sucre, du thé, qui repartent. Et puis l'Afrique noire, voilà, l'Afrique noire. Alors, je me rappelle parce que c'était ma première Afrique, hein, et il y a le commissaire de police qui m'a fait arrêter parce qu'en fait, il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait pas de camping, il n'y avait rien à cette époque. Et je dormais dehors, j'attendais mon camion qui n'allait pas tarder à revenir. Et puis, je dormais dehors pendant un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours. Puis, ça emmerdait le commissaire. Alors, il m'a fait arrêter. Il me dit, mais... J'ai dit, mais pourquoi vous m'arrêtez? Mais je dis, mais... Alors, ils me disent, pour vagabondage. Je dis, ah, mais j'ai rien fait. Alors, ils me disent, non, mais c'était sous Giscard, hein, Giscard d'Estaing. Donc, ils m'ont dit... Le grand Giscard d'Estaing, on ne peut pas le mettre en prison. Toi, tu es un petit Giscard, donc on va te remettre au cachot. Ouais, c'était l'Afrique, c'est imparable. Hein. Et en fait, tout ça, je l'ai appris en accéléré. Voilà. Donc, j'avais découvert le Sahara un tout petit peu et l'Afrique un tout petit peu. Bon, j'avais quoi? J'avais 16 ans et demi. Et depuis, ben, je n'ai eu de cesse que de connaître le Sahara mieux et l'Afrique mieux. Et bon, aujourd'hui, j'ai 55 ans. Je connais beaucoup, beaucoup mieux qu'avant. Mais on... Il n'y a pas un pays d'Afrique noire que je ne connaisse pas, à part un ou deux. Et le Sahara, tous les pays du Sahara, je les connais. J'ai fait toutes les caravanes de sel que font les nomades à travers le Sahara. Je les connais toutes. J'ai traversé le Sahara d'est en ouest qu'aucun nomade n'a jamais fait. Mais je me considère encore comme connaissant pas très très bien le Sahara. J'ai fait une thèse de doctorat d'ethnologie sur les nomades du Sahara avec tous les clans, les sous-clans, les marques de chameaux, tout ça. Mais... Donc j'ai traîné pendant des mois, des années dans ce désert, mais plus j'y vais et moins j'ai l'impression de le connaître. C'est très étonnant déjà.
Qu'est-ce qui fait que tu y retournes?
Bah justement parce que j'ai l'impression de ne le connaître pas encore assez. J'ai beau avoir été par exemple une trentaine de fois, une quarantaine de fois au Tchad par exemple ou au Niger, bah, y a un tas de zones encore que je ne connais pas. Et puis ça bouge aussi, c'est fluctuant, c'est pas une zone inanimée.
كلغتي لين زيدي قد عشكا اللي لغتين ريملة ورهين عمال كلغتي لين زيدي قد عشكا كلغتي لين زيدي قد عشكا.
Non, mais ce que j'imagine ou ce que je n'imagine pas, en fait, c'est le blanc qui arrive avec ses chameaux et qui rencontre les nomades, les nomades du désert. Mais qu'est-ce qu'ils pensent, les gens, quand ils te voient débarquer? C'est pas ton pays, c'est pas ta culture, et tu es là, tu es avec eux, tu vis comme eux, tu fais comme eux. Comment... Waouh!
Oui, c'est vrai que les nomades, ils ont toujours cette caractéristique, et ça m'a toujours étonné chez eux. Ils ont leur désert à eux. Et ils s'imaginent toujours qu'il n'y a que leur désert qui existe au monde. Et donc, si par exemple on vient en chameau, un Européen vient tout seul avec ses chameaux, bah, ils se disent, mais bon, il sait s'occuper des chameaux, très bien, mais comment ça se fait qu'on ne le connaisse pas? Parce que s'il a appris à monter sur le chameau, c'est automatiquement chez nous. Et nous, on ne le connaît pas. Donc, comment se fait-il qu'il vienne en chameau alors que nous ne le connaissons pas? Alors, ça, c'est au début. Après, à force, effectivement, ils apprennent à me connaître. Et la deuxième, ou troisième, ou quatrième fois, ben, ils savent que je suis là, ils savent qui je suis. Mais ça, c'est leur caractéristique. Ça, c'est une première caractéristique des nomades. Donc, ils croient toujours qu'ils sont seuls dans leur désert. Il n'y a que leur désert. La deuxième caractéristique, c'est qu'ils n'arrivent jamais à se mettre à votre place. C'est-à-dire qu'on arrive, à, par exemple, à un puits. On est assoiffé. Ça fait, par exemple, 48 heures qu'on n'a pas bu. Moi et les bêtes, ou les chameaux, ça fait peut-être 10 ans, 3 semaines qu'ils n'ont pas bu. Moi, ça fait peut-être 48 heures que je n'ai pas bu. J'ai les yeux qui me sortent de la tête parce que je suis assoiffé, je suis en déshydratation. Ça se voit quand même. Moi, j'imagine que ça se voit. Quelqu'un qui arrive, qui est exténué, qui est assoiffé. Ben non, eux, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais pourquoi ils se mettent dans cet état? Puisque nous, on sait très bien que le puits, il est ici. Donc pourquoi est-ce qu'il va se mettre en perdition dans une zone où nous-même on ne va pas, et alors qu'on sait très bien où est le puits et nous on peut y aller en deux secondes. Donc ils comprennent pas qu'on est assoiffé, déshydraté et qu'on est à deux doigts de tomber par terre d'inanition. Ça, voilà, ça m'a toujours étonné. Ou alors ils croient que on est super riche parce qu'on vient de loin, donc on a les sacoches pleines d'or ou d'argent en liasse de billets compacts. Voilà, ils croient que parce que je suis blanc avec deux chameaux, je suis riche, mais c'est faux. Souvent, j'ai moins qu'eux.
En fait, toi, tu es un aventurier, eux, c'est des nomades. Ils n'ont pas ce goût de l'aventure comme toi, tu as. Ils n'ont pas cette envie d'aller au-delà des dunes qu'ils ne connaissent pas. C'est pas des aventuriers, en fait, les nomades.
Bah, les nomades ont cette caractéristique, c'est qu'ils sont nomades. Bon, pourquoi est-ce qu'ils sont nomades ? Parce qu'ils ont des animaux qui ont besoin d'un petit peu de végétation tous les jours. Les dromadaires, par exemple, ils ont besoin de brouter. Et le désert produit peu. Donc, il faut chercher un petit peu de pâturage ici, accompagner ces bêtes, chercher un petit peu de pâturage là. Et ce sont en fait les dromadaires qui sont nomades, à la limite, et pas les éleveurs. Les éleveurs ne font qu'accompagner en fait leurs bêtes dans leur nomadisme, parce que le désert procure peu. Mais jamais ils vont se mettre en difficulté à aller dans une zone qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'ils ont leur zone de pâturage traditionnelle, et c'est d'ailleurs tout le temps les mêmes. D'année en année, les nomades, chaque tribu, chaque clan, a son même rythme de nomadisation. C'est-à-dire qu'au mois de juillet, par exemple, ils vont monter dans le désert, et puis au mois de septembre, ils vont avoir leur grande réunion d'été, comme ça. Chaque clan a son cycle. Et ils vont jamais se mettre en perdition dans une zone qu'ils connaissent pas, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Leurs bêtes vont mourir parce que y a par exemple pas de pâturage, pas d'eau, et eux, qui vivent de leurs bêtes, vont mourir également. Donc c'est complètement illogique pour eux de chercher l'aventure dans une zone qu'ils ne connaissent pas. Ils risquent non seulement d'y laisser la vie de leurs bêtes, d'y laisser leur vie, et de laisser à la limite la vie de tout leur clan, la subsistance de tout leur clan, qui se perdrait dans le désert, voilà. Donc pour eux, c'est pas du tout logique. En plus, eux considèrent que ce sont des zones intraversables. Donc par exemple le Sahara, c'est constitué de zones très 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 arides entre des zones de pâturage, qui d'ailleurs sont des zones de séparation entre les tribus. Par exemple entre les Maures et les Touaregs, on a un grand désert au nord du Mali qui s'appelle le Mrié, ce qui veut dire le miroir, qui réverbère vraiment, c'est comme un miroir. On a des mirages en permanence sur 360 degrés comme de l'eau. Donc ça réverbère comme un miroir. Et puis entre les Touaregs et les Toubous du Tchad, bon, on a le Ténéré, qui est également un désert de dunes, comme ça, à perte de vue, qui sépare ces tribus entre elles. Entre les Toubous et les Arabes du Soudan, on a encore une fois le désert du Soudan, qui s'appelle l'Ashimalia, ce qui veut dire le désert du Nord, en fait. Ils disent que c'est un désert qui est dans le Nord, voilà. Et là, encore une fois, ça sépare ces populations entre elles. Donc ils ne vont pas s'aventurer, parce qu'ils savent que de l'autre côté, ce sont des ennemis traditionnels. Et donc, ils ont non seulement le danger potentiel du désert, mais le danger de l'ennemi qui est de l'autre côté. Et donc, voilà, ce sont des frontières comme pour nous, des frontières. Voilà.
Mais toi, t'y vas ?
Moi, j'y vais parce que, bon, j'ai une cartographie, mais qui est très, très déficiente souvent. Bon, ma carte, par exemple, elle est blanche. Admettons que j'ai une carte blanche entre l'Égypte, le Soudan et le Tchad. Bah, la carte était blanche. Mais au moins, c'est une carte.
Mais c'est ça qui te plaît, finalement, c'est d'aller au-delà du connu. Parce que tu pourrais très bien te limiter au territoire des nomades et te dire, tiens, je vais passer un peu de temps avec eux, vivre comme eux, partager leur quotidien. Mais non, toi, ce qui t'intéresse, c'est pas tellement ça. C'est pas le nomadisme ou le mode de vie nomade. C'est vraiment aller au-delà de tes limites et au-delà des limites du connu.
Non, c'est tout un cheminement. C'est-à-dire qu'on est obligatoirement obligé de vivre avec les nomades très très longtemps pour apprendre leur technique chamelière, pour savoir comment s'occuper des chameaux, pour connaître un petit peu leur mentalité. Ce sont les nomades qui m'ont appris le désert. Hein. Par exemple, on partait parfois avec des ânes, tout simplement. On n'est pas obligé de partir avec des dromadaires. Hein. Par exemple, dans les canyons du Tassili Nadjer, c'est un plateau de grès qui fait 1000 km de long dans le sud algérien. Là, il vaut mieux partir avec des ânes parce que c'est plus robuste. Le chameau, il a du mal à pénétrer ce plateau. Et puis, à d'autres endroits, ça peut être avec des dromadaires, effectivement. Mais ce sont les nomades qui vous apprennent ça. Moi, j'ai vécu pendant des mois et des mois et des mois et des années avec les nomades. Même quand je descendais J'ai vendu des voitures pendant 10 ans en Afrique noire, mais chaque fois, j'ai transité par le territoire des Touaregs ou des Maures ou des Toubous, et je les revoyais. Donc, de 6 mois en 6 mois, ou de 4 mois en 4 mois plutôt, je revoyais mes amis, ils me passaient même des commandes en Europe, ils me disaient « ramène-moi ça, ramène-moi ça ». Je les ramenais, donc c'était vraiment... J'ai passé un temps fou avec les nomades. Simplement, à un moment donné, donc à l'âge de 33 ans d'ailleurs, je me suis dit « bon, maintenant, je vais traverser leur zone qui leur fait peur ». Le Sahara, aucun nomade ne l'a jamais traversé. Pourquoi ? Bah parce qu'ils ne connaissent pas. Et aucun nomade, d'ailleurs, n'a jamais fait plus de 400 km seul en chameau. Ils ont peur d'être seuls. Ils considèrent que toutes les zones qu'ils ne connaissent pas, c'est peuplé de djinns, d'esprits malfaisants qui vont égarer le voyageur. Les Touaregs, par exemple, ils sont très sociaux. Hein. Donc, dès qu'un Touareg est seul dans le désert, il commence à flipper. Hein. Donc ils se baladent toujours à deux ou trois ensemble, minimum. Et puis dès qu'ils peuvent ne pas aller dans le désert, bah, ils aiment bien. Hein. Donc ils sont au campement, ils font rien pendant des heures et des heures et des heures. Ils papotent, ils boivent du thé, ils ont des fêtes où ils rencontrent les copines des villages d'en face, etc. Voilà la vie des Touaregs. Hein.
Et quand toi tu t'es mis en tête de traverser le Sahara, tu as voulu le faire tout seul ou est-ce que tu as d'abord cherché quelqu'un pour t'accompagner ?
Bah, en fait, j'étais pas contre partir avec quelqu'un, mais j'ai vite compris que personne n'était capable de me guider. Parce que zone par zone, que ce soit le Soudan, le Tchad, le Niger, etc., zone par zone, il y a toujours une partie qui fait peur aux gens. Par exemple, les Soudanais, les nomades soudanais, qui sont arabes, ce sont des arabes noirs, bah, ils vont pas aller dans l'extrême nord de leur désert. Ils connaissent pas. Donc ils ont une limite, toujours une limite qu'ils ne franchissent pas. Donc un guide, même local, pourra même pas me guider localement. Alors parlons même pas d'une autre zone, là il va être paumé. Et en plus il va avoir peur, il va communiquer sa peur et ça va engendrer des catastrophes. Il vaut mieux être seul. Il vaut mieux être seul et puis seul on gère tout. Bon. Alors c'est en même temps un avantage parce qu'on est tout seul avec ses chameaux, on est une toute petite structure, un homme, deux chameaux, on trouve une touffe d'herbe, ça suffit pour la soirée pour les bêtes. Mais en même temps, l'envers de la médaille, c'est que c'est dangereux. C'est-à-dire qu'au moindre accident, on le paye très très cher. C'est-à-dire on tombe du chameau par exemple. Je suis rarement sur mon chameau. Hein. Bon, la plupart du temps, je marche et les chameaux suivent derrière. Mais de temps en temps, pour couper un peu, je monte sur ma bête de selle. Mais si jamais la bête s'effraie, elle voit une pierre par exemple qui lui fait peur, ça m'est arrivé. J'avais un chameau une fois qui avait peur des pierres parce qu'il n'avait jamais vu les pierres. Il avait été élevé dans le sable et il ne connaissait pas les pierres, il n'avait jamais vu une pierre. Il voit une pierre, il s'affole, il part au galop, en marche arrière. Bon, ça peut arriver. Donc admettons qu'on n'ait pas vu venir le truc, on tombe. Qu'est-ce qui se passe ? Le chameau s'effraie encore plus parce que vous êtes tombé, donc c'est qu'il y a un danger encore plus. Plus réel. Donc le chameau se sauve parce que le maître a eu un problème. J'ai par exemple eu un autre chameau qui avait peur des palmiers doum. Donc c'est un palmier qui vit dans le désert, qui pousse dans le désert et qui fait un bruit métallique quand il y a un petit peu de vent. Les branches des palmes frottent les unes contre les autres. Ça fait une fréquence qui est très très anormale pour l'oreille du chameau. J'étais en train de mettre mes sandales. Les deux chameaux partent au galop dans le Ténéré. À perte de vue, je me suis dit merde, je suis foutu. Ils avaient tout, ils avaient l'eau, les cartes. Il y avait une sandale qui était encore sur le chameau. J'avais une sandale au pied en plein Ténéré. Et j'aurais couru après, le plus vite possible. J'étais déjà exténué. Bon. Et ça a duré comme ça 1 km, 2 km, 3 km. Puis après, je me suis effondré, j'étais mort. Et en fait, j'ai failli attraper les bêtes. J'étais juste derrière, mais bon. Et je m'écroule. Et dès que je me suis arrêté, les chameaux se sont arrêtés. Parce qu'ils se sont dit, ah, le maître a arrêté de courir, donc le danger est écarté. Donc, si le danger est écarté, on s'arrête. Mais ils sont très cons. Hein. Je veux dire, c'est des animaux qui sont quand même difficiles. Donc, il faut savoir s'arranger d'eux, hein, parce qu'ils sont semi-sauvages. Donc, les manipuler vraiment avec précaution. Mais tout peut arriver à tout moment. C'est-à-dire qu'on peut tomber du chameau, les chameaux se barrent, on peut se casser un pied. Alors, si on est seul avec un pied cassé en plein désert, on est mort, ça c'est sûr. Si on est abandonné par ces bêtes en plein désert à plus de 200 km de tout, on est mort, c'est certain. Voilà, c'est un équilibre qui peut vous permettre de traverser des déserts, mais qui est quand même mortellement dangereux.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.